au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à vous tous dans votre émission du vendredi au cœur de l'islam, une émission diffusée à 6h et à 14h. Et merci à vous de nous faire l'amitié de rester avec nous pendant cette petite heure. Kamel Shekat, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alors Kamel Shekat, nous sommes toujours dans le chapitre des fondements de la foi, dans son quatrième point ou quatrième degré, qui est celui de la croyance au prophète, paix sur eux. Et après avoir passé en revue leur parcours, leurs miracles et le contenu de leur message, nous insistons depuis quelques semaines sur le récit du sceau des prophètes, qui est décédé certes, mais qui continue d'être parmi nous par son esprit, son verbe et ses enseignements, n'est-ce pas? Comme Rasoulallah.
Absolument.
Et dans ce même contexte, la voix ou la tariqa waïsia reflète très bien cette relation ou filiation directe jusqu'à lui. Mais si vous permettez, Kamel Shekat, nous laisserons de côté cette philosophie transcendantale. Parlons plutôt de concepts pouvant être compris et assimilés par un plus grand nombre de personnes. Alors, dans la sourate Al-Imran, verset 31, Dieu subhanahu nous dit: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Quelle est la valeur de ce verset sur un plan spirituel, tout en sachant que le cheminement vers Dieu passe obligatoirement par l'adoration du prophète, et cette intimité dont vous parliez déjà la semaine dernière ne saurait se faire sans l'amour du prophète? Kamel Shekat.
Alors là, c'est un point de la religion qui mérite d'être médité et bien compris. Il y a quelques années de cela, je regardais une émission à la télé et je vois une sorte de pope, un prêtre orthodoxe, disant que oui, les musulmans, finalement, ce sont des polythéistes. Ah bon? Et comment cela? Vous savez, quand vous regardez des émissions de ce genre et que l'on vous balance, entre guillemets, ce type d'informations, ça vous interpelle.
C'est ce qui était courant lors des croisades.
Hein. Oui, absolument.
Alors, on a même des histoires, par exemple, de Sarrasins qui portaient la stèle de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans toutes leurs guerres.
Il y a pire que ça. On a même dit, vous trouverez ça dans l'histoire des croisades de Guillaume de Tyr, qui dit que les musulmans ont même utilisé des sorcières pour combattre les croisés, etc. Donc, alors, les musulmans sont des polythéistes. Et pour preuve, dans leur manière de proclamer l'unicité de Dieu, ils disent « La ilaha illallah » et ils associent « Muhammadur Rasulullah ». Je voudrais revenir sur ce point. « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ » Si réellement vous aimez Dieu, suivez-moi et Dieu vous aimera. Ça veut dire que ce cheminement religieux doit impérativement passer par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il devait passer à l'époque de Jésus par Jésus, et à l'époque de Moïse par Moïse, et à l'époque de tous les prophètes par les prophètes qui étaient dans l'exercice de leur apostolat.
Même s'il n'y avait pas la ilaha illallah, Isa Rasulallah ou Moussa Rasulallah.
Ça n'a pas, peut-être, vous savez, non, peut-être que ça a été dit, mais qu'avec la falsification et l'altération des textes religieux qui à travers les siècles, ça y a eu une sorte de déformation. D'ailleurs, le problème, par exemple, autant avec les juifs qu'avec les chrétiens, je parle des hommes de culte, Moïse, alayhi salam, n'a pas la même place auprès de Dieu que celle des rabbins, même à l'heure actuelle. Un rabbin, c'est quelque chose de super, d'énorme.
Suprême
même, oui. Et si vous étudiez bien la religion chrétienne, bien sûr, on dit de Jésus, alayhi salam, c'est le Seigneur, c'est le Fils de Dieu, dans la logique même de la Trinité. Sauf que on accorde à un pape beaucoup plus de pouvoir que l'on accorderait ou que l'on a accordé à Jésus, alayhi salam. Et même quand vous lisez la Bible chrétienne, vous allez vous rendre compte qu'une personnalité comme Paul de Tars, ennemi juré du Christ de son vivant, qui va devenir, je ne sais par quel cheminement ou par quel miracle, l'apôtre des apôtres, il a plus de pouvoir sur le plan législatif, sur le plan même au niveau de l'enseignement, il a plus de pouvoir que Jésus, alayhi salam.
C'est Luther, je crois, Kamel Shekat, c'est Luther qui disait que le Dieu du diable était plus puissant que le Dieu du Turc.
Je ne sais pas, mais je sais que Luther a publié un édit en 1541 qui s'intitule « Exhortation à la prière contre le Turc ». Il était tellement ahuri par la déferlante entre guillemets de l'islam, par l'impact qu'avaient les Turcs musulmans sur les populations européennes de l'époque, en Allemagne, en Hongrie, etc., que ça a vraiment porté un coup fatal au christianisme et à la chrétienté, de par le rayonnement qu'apportait l'islam, le respect des droits de l'homme, le respect des religions, etc. Donc, il est
même
temps
si l'avancée des musulmans a été arrêtée en 732, donc en 732, juste un siècle après le décès de Sidna Rasulallah par Charles Martel à Poitiers. Mais ils n'ont pas vu venir les musulmans du côté de l'Espagne, certainement.
Bon, Charles Martel n'a rien combattu, attention, hein, c'est du pipeau. Ça n'a,
encore une pas autre un légende combat. De l'histoire.
Oui, une belle petite légende. Et puis, les musulmans ont séjourné en France quelque chose comme 430 ans à peu près, qui ont été c'est toute une période de l'histoire qui a été effacée,
falsifiée.
Ils sont arrivés à pratiquement 70 km de Paris. Ils ont apporté la civilisation musulmane en Europe, en France, en Italie, en Sicile, je ne vous raconte pas. Mais les seuls vestiges qui nous restent sont ceux de
l'esprit de l'esprit de la reconquête du XVe siècle.
Hein. Oui, absolument. Donc ce cheminement religieux doit impérativement passer par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le seul à pouvoir, ou bien c'était le seul à pouvoir le transmettre et l'expliquer aux êtres humains. C'était ce maillon entre Dieu ou le message divin et ceux qui devaient le recevoir. Donc il n'y a absolument aucun problème que les choses se fassent de la sorte. À l'heure actuelle, vous avez des non-musulmans ou des ennemis de l'islam, des détracteurs qui passent leur temps à jouer sur ça. Et puis, au sein même de la communauté musulmane, vous avez des petites sectes qui travaillent on ne sait pour quelle force occulte, qui font un travail de sape pour jeter le discrédit sur tout ce qui a trait à la tradition prophétique. Le but de tout ce beau monde, c'est de, je vais le dire en arabe, « ta'til ul-ahkam ». Ça veut dire que ces gens-là ne veulent qu'une seule chose, faire de l'islam une foi sans loi et sans pratique. Vous êtes musulman comme vous le voulez, c'est du folklore, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et c'est un peu à l'image de ce que font les adeptes d'Hari Krishna ou bien toutes ces sectes qui passent leur temps à danser et à chantonner. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'essence même de la révélation.
Alors Kamal Chekat, aujourd'hui nous poursuivons donc notre voyage en parallèle de ce voyage nocturne et de l'ascension de Sidi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers le ciel. Un thème que nous avons entamé déjà la semaine dernière, nous avions parlé de cet aspect ésotérique, puisqu'on a dit que l'Isra ou le Mi'raj était le prototype du voyage spirituel, de tout cheminant vers Dieu. Alors justement, le voyage nocturne Kamal Chekat qui est survenu en l'an 622, donc l'an 10 de la révélation.
L'an 10 de la révélation, certains disent qu'il a eu lieu une année avant l'exode du prophète, d'autres disent qu'il a eu lieu à peu près 16 mois avant l'exode du prophète. Généralement, les gens, à l'heure actuelle, commémorent cette date au mois de Rajab, le 27 du mois de Rajab, mais certaines indications donnent comme date un peu plus, enfin, l'information est un peu plus plausible, le mois de Rabi' Thani, parce que nous avons un atar, un hadith rapporté par Ibn Abbas, entre autres, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né en l'an, au 12e jour de Rabi' al-Awwal, et c'est en ce jour même c'était un lundi, c'est en ce jour qu'il a reçu la révélation. Wa usriya bihi wa urija bihi fi mithli hadha al-yawm, quelque chose, ou comme qu'il dit. Donc ça nous donne donc Rabi' al-Awwal. Il y a divergence donc en la matière, mais comme je le disais la semaine dernière, je suis d'avis qu'il ne faille pas rester dans ce type de divergence. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que ce voyage nocturne et cette ascension ont bien eu lieu.
Oui.
Attention, il y a eu cette période de tristesse, de grande tristesse.
Justement, Kamal Chekat.
De blocus dans Shi'ab Mecca, dans les faubourgs de la Mecque, fi Shi'abi Bani Abdel Muttalib. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu donc son oncle qui était son soutien le plus important sur le plan social, un autre soutien tout aussi important qui était en même temps social et puis sentimental même, c'était Sayyida Khadija radhiyallahu anha. Ensuite, il y a eu cette mésaventure à Taif, dans la
Justement.
Ville de Taif.
Alors, le voyage nocturne, certains pensent que c'est une rétribution, une consolation, une bénédiction du Seigneur des mondes à son messager, puisque vous parlez de Taif, même si les gens de Taif n'ont pas cru, les djinns y ont cru.
Oui, bien sûr.
Sans même être conviés, justement, à ce nouveau message.
Les djinns, « Wa itsarafna ilayka nafaran min al-djinn », donc il y a ça, mais il y a dans Sourate al-Djinn,
«
Qulu hiya ilayya anna » واستمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Donc il y a les djinns ont écouté, ont entendu ces propos. Nous avons écouté des versets ou un discours qui a été révélé après Moïse. Ils étaient subjugués.
D'accord. Et le détail que vous n'avez pas cité cette fois-ci, Kamal Shakat, l'importance de ce doua qu'a lancé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Dieu.
Oui.
Certains pensent que l'Isra' ou le Ma'raj sont une réponse à ce doua, justement.
Le fameux doua, Allahumma ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata hilati. En fait, la récompense, c'était quoi? Plus la terre compressait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, daqat alayhi l'ardu bima rahubat, fa futihat lahu samawat. C'est-à-dire que qu'on est sorti de cette étroitesse, dans ce confinement dans lequel il se retrouvait, parce qu'il était acculé de toutes parts. Les problèmes
persécuté par les siens, caillassé, lapidé par les gens du Taif.
Vraiment, c'était la totale, quoi. Et de cet état de crise, de cette étroitesse, il allait vers ce qu'il y a de plus ample, de plus vaste, à ne plus en pouvoir.
C'est-à-dire,
oui. Et c'est là. Inna ba'd al-usri yusra. Bien sûr, ça c'est une sorte d'enseignement, mais le fait qu'il ait fait preuve d'endurance, il a reçu cette récompense. Mais attention, il n'y a rien de gratuit là-dedans non plus. Parce que par la suite, il fallait en parler, il fallait publier la chose, il fallait à son retour, il fallait qu'il dise aux gens voilà ce qui m'est arrivé hier. Et vous savez,
c'est la suite du combat qui continue.
Oui, c'est-à-dire que à ceux, par exemple, qui passent leur temps à vous dire, parce que moi, il m'arrive de rencontrer des gens avec lesquels, quand on discute, qui vous disent, oh, tu sais, moi, ce genre d'histoire de folklore, je n'y crois pas tellement. Et je me pose la question, mais vous vous dites musulman et vous n'y croyez pas, alors que quelqu'un comme Abu Bakr as-Siddiq. C'est d'ailleurs en cette occasion qu'on l'a baptisé.
Qui a été gratifié justement de cette appellation.
Et on est le crédule en quelque sorte. On est venu lui dire, tu sais, ton ami, voilà ce qu'il raconte. Il a dit, in kana qad qala faqad sadaq. S'il vous a dit
tout
cela,
simplement,
c'est qu'il a dit vrai. Et on lui a dit, et tu arrives à croire à ça? Il leur a dit, écoutez, je le crois quand il me dit qu'il reçoit une révélation venant du ciel. Pourquoi ne le croirais-je pas quand il me rapporte des faits qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins important que cette révélation qui lui vient de Dieu. Nous sommes dans une logique de coraniste, le coraniyoun.
Le verset est clair.
Et ces gens-là, vous savez, il y a des tendances qui ont été suscitées, créées par des personnages qui travaillent, qui ont toujours travaillé contre l'islam et les musulmans. Et on veut lancer on va dans des logiques qui font des approches
très rationaliste.
Même pas, non. Vraiment, on négocie par l'absurde, en quelque sorte. On n'est plus dans la logique, on est dans le syllogisme, par moment. Et ces gens-là vous disent, oui, non, mais attendez, est-ce que c'est cité dans le Coran? Oui, mais ce n'est pas cité dans le Coran, mais toi-même, tu es en train de te livrer à des pratiques qui ne sont pas citées dans le Coran. Maintenant, si je devais prendre le Coran en tant que tel que je l'ai, il y a une bonne partie de la religion que je vais bannir. Et le problème, c'est que maintenant, même les versets coraniques, on va leur donner des lectures à tout bout de champ. On va dire ce qu'on veut dire. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, vous savez, dans le Coran, tous les versets ont entre 1000 et 2000 interprétations. Depuis le temps que je le mets au défi de me donner un seul verset avec 5 interprétations et qu'il ne le fait pas, mais cette même personne passe son temps à dire cela. Et elle trouve des gens qui aiment bien écouter ce type de propos. Et à partir de là, Shorbul Khamr, non, vous pouvez boire modérément. Ramadan, non, vous pouvez ne pas jeûner. Vous comprenez? Donc, c'est si le cheminement religieux se fait sans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas d'islam. Je suis désolé pour vous. Alors, comme le disait si bien Bachil Ibrahimi, Hakada kunu ou la takunu. Nous avons un livre de Dieu. Ce livre de Dieu a été expliqué, commenté par la tradition prophétique. Cette tradition prophétique nous a donné un champ immense avec une multitude de manières d'aborder ce culte pour nous le faciliter. Quiconque ne veut pas de cela, eh ben lâchez l'islam, sortez de cette religion. Ne craignez rien, personne ne viendra vous tuer. Et nous serons là pour dire aux gens que cette apostasie, parce que beaucoup vous diront, oui, si vous quittez l'islam, on vous tue. C'est un avis qui prévaut en temps de crise ou de guerre. Walakin l'istitaba ala maqalahu ba'dul ulama yustatabu al-murtaddu madal hayat.
Sidna Mohamed l'a-t-il fait, Kamashekat? Est-ce qu'il a imposé sa religion sur ceux qui ne voulaient pas? Par exemple, à Taïf l'a-t-il fait? Chez lui à Quraysh, donc l'a-t-il fait?
Même après la conquête de la Mecque, il ne l'a pas fait.
Alors
il y a des gens qui ont quitté, ou bien sûr qu'il aurait pu. Vous savez, Alfred Guillaume, qui est un grand orientaliste britannique dans Legacy of Islam, fait un constat qui est très très technique. Si les musulmans, même plusieurs siècles après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avaient voulu imposer l'islam au monde actuel, ils l'auraient fait sans le moindre problème, parce que ces gens-là jouissaient d'une puissance de feu qui était peut-être mille fois plus importante que celle qu'ont les Occidentaux actuellement, et qu'ils auraient pu effacer les autres religions de la mémoire collective de l'humanité. Ils ne l'ont pas fait, et l'histoire est là pour plaider en leur faveur. Donc, la ilaha illallah ne passe pas si elle n'est pas suivie ou confortée par Muhammadur Rasulullah.
Kamal Shekat, nous continuons donc notre parcours du voyage nocturne et de l'ascension de Sidna Rasulullah vers les cieux, les sept cieux, et même certains parlent de neuf stations.
Il y a différence entre maqam et puis les cieux. Hein. Il y a sept cieux, pas plus. Hein.
Sept cieux, mais certains classent aussi le Kursi et le Arsh dans cette échelle, devrais-je dire.
Oui, les textes sont un peu plus clairs à ce sujet. Le Coran, ou autant le Coran que la tradition prophétique, nous parle de sept cieux, qu'on suppose être sept dimensions différentes.
Kamal Shekat, est-ce qu'on peut insister sur le texte? Que dit le texte? Bien sûr, ici, c'est la Sunna. Il y a beaucoup de versions. Soyote en disait la semaine dernière qu'il avait classé déjà entre 45 et 47 versions.
La semaine dernière, en termes de recoupement, je vous disais que j'avais fait un petit recoupement à partir de 110 hadiths. Donc, il y a beaucoup de récits inhérents à cette... Vous savez, quand on lit tout cela, on se rend compte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu, il a annoncé qu'il a vécu un miracle en faisant ce voyage. Et il a donné les preuves, du moins des preuves matérielles à l'époque, qu'il avait fait ce voyage. Parce qu'on lui a dit, les polythéistes lui ont demandé de leur décrire le Masjid al-Aqsa, Jérusalem.
Et à un moment donné. Qu'il n'avait vu qu'une seule fois.
Oui, qu'il n'avait vu qu'une seule fois et peut-être quelques instants seulement. En plus, c'était la nuit. Dans l'une des versions, le prophète alayhi salatu wasalam a dit. Puis à un moment donné, je ne savais plus quoi répondre. Et c'est là que Dieu me montra, c'est l'image de le Masjid al-Aqsa, c'est carrément matérialisé devant lui.
Encore
il regardait l'image et il décrivait. Et puis, ça a été corroboré aussi par des voyageurs, etc. Il y a eu ensuite l'histoire ou l'anecdote avec Abu Bakr Siddiq. Par la suite, le messager de Dieu alayhi salatu wasalam, a rapporté ce qu'il a, en substance, ce qui s'est passé pendant ce voyage. Mais apparemment, de temps à autre, quand la chose était nécessaire ou quand la chose était propice, il citait à ses compagnons certains détails de ce qu'il avait vu dans cette ascension.
On commence alors avec le voyage horizontal, Kamal Shekat?
Alors le voyage horizontal, il a eu lieu de la Mecque vers Jérusalem, vers la
avec
ville de Jérusalem.
Avec des stations?
Il y a la seule station quand vous lisez le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Jérusalem, apparemment dans ce qu'on appelle actuellement l'esplanade des mosquées, là où se trouve Ha'itul Buraq, qu'on appelle actuellement mur des lamentations. Et attention, ce mur des lamentations n'existe que depuis 1920. Certains seraient tentés de croire que oui, ça existe depuis 3000 ans ou je ne sais quoi. Non, c'est faux. Ça n'existe que depuis 1920, 1919 à peu près. Et donc, le prophète...
Sur une monture blanche.
La monture en question s'appelle le Bourak.
Plus grande qu'un âne,
un peu plus petite qu'une mule.
De grandes enjambées.
Oui. Elle faisait des enjambées spectaculaires. Jusqu'à votre ligne d'horizon. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que...
Il arrive à Jérusalem. Il attache sa monture.
Oui, il attache sa monture à un endroit qui était déjà réservé dans l'anneau destiné à l'usage des prophètes. Fi marbat al-anbiya. Ça veut dire que là, déjà, nous avons un premier enseignement. C'est « I'qilha wa tawakkal ala Allah ». Il y a quelqu'un qui est venu demander au messager de Dieu, alayhi salam, concernant justement tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu.
La remise totale à
Dieu. Est-ce que ma monture, est-ce que je la laisse comme ça libre ou est-ce que je l'attache? Il a dit, attache-la et remets-toi à Dieu.
De quelle monture il parlait, Kamal Shekat?
Ce sahabi parlait de...
symbolique
non,
ou il
non,
parlait
Non,
de...
ce compagnon parlait d'une chamelle. Est-ce que je vais rentrer à la mosquée? Est-ce que je la laisse libre, sachant pertinemment que si Dieu le veut, personne ne la prendra, elle ne s'égarera pas, elle ne s'échappera pas.
On était parmi les croyants.
Oui, il a dit non, attache-la plutôt et remets-toi à Dieu. Ce qui veut dire à l'heure actuelle, quand vous sortez le matin de chez vous, mettez votre roue de secours dans le coffre de votre voiture et remettez-vous à Dieu. Vérifiez la pression des pneus et remettez-vous à Dieu. Le tawakkul, c'est pas comme... justement, certains, il n'y a pas très longtemps, dans les années 90, on voyait des gens qui n'avaient pas de roue de secours dans leur véhicule au prétexte que cela portait préjudice au principe justement de tawakkul. Mmh. Ah, si tu étais vraiment mutawakkil, tu n'aurais pas fait cela. Non, je suis désolé.
Que disait Omar sur haqqa tawakkul?
Il a dit, oui, Omar ibn Khattab a vu des gens une fois dans la mosquée qui ne faisaient rien. Il a dit, d'ailleurs, avec mépris, il n'a pas dit « men entum », il a dit « ma entum » dans la version que je connais. C'est pas « qui êtes-vous donc », mais « qu'êtes-vous donc ?» Ils ont dit « qawmun mutawakkilun ». Nous ne travaillons pas parce que c'est Dieu qui nous assure notre subsistance. Et c'est vrai, bon, nous y croyons. Et il a dit là, innama tawakkul rajulun alqa habbahu fil ard thumma tawakkala ala Allah. La vraie foi justement en Dieu consiste à ce geste que fait l'agriculteur qui sème ses graines et qui se remet ou qui s'en remet à Dieu par la suite. Parce que quand l'agriculteur fait le travail qu'il doit faire, après cela, si c'est une culture à sec, il va compter sur les pluies. Donc là, déjà, vous avez un premier enseignement. C'est celui de tous les prophètes, pas Mohammed uniquement. Ça veut dire que tous étaient dans cette logique de tawakkul qui prenait en considération le fait qu'il faille prendre des dispositions pour chacune des choses inhérentes à la vie de d'ici-bas ou bien à l'activisme quotidien de chacun d'entre nous. Donc, il va attacher sa monture pour aller à la rencontre, justement, de tous ces prophètes de Dieu, alayhimus salam. Et là, normalement, il va y avoir, selon ce que rapportent les textes, cette prière en congrégation où Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, va être l'imam de tous ces prophètes.
Justement, il entre dans la mosquée d'Al-Aqsa, il trouve un monde fou.
Oui.
Tous les prophètes, de Sidna Adam, alayhi salam, jusqu'à Isa, alayhi salam,
qui
étaient tous présents.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, Kamal Shekat? Ils étaient tous là, présents pour Sidna Rasulullah, alors qu'il allait voir quelques-uns au niveau des différents cieux.
Là, les textes, honnêtement, moi, quand je les lis, je ne sais pas si certaines choses se sont produites avant qu'il le monte sur sa monture, le Bourak, ou après qu'il soit arrivé à la mosquée l'Aqsa. En tout cas, il y a eu ce lavage de la poitrine, Shaqsadr.
Déjà à la Mecque.
Oui, à la Mecque. Il l'a eu quand il était enfant, comme nous l'avons signalé la semaine dernière. Il s'est reproduit juste avant que le voyage n'ait lieu. Et puis, il y a Djibril aussi qui va venir avec deux récipients. L'un
contenant du lait
et l'autre du vin. Et le prophète sallallahu alayhi wa
sallam. Avant la prière ou après la prière?
Je ne sais pas, le texte n'est pas clair à ce sujet. D'accord. Il va choisir le lait justement et à Jibril de dire « Tant mieux pour toi, tu as choisi l'inéité, le fitra, c'est-à-dire la nature primordiale de l'homme, celle qui fait normalement que chacun d'entre nous naît bon et en bon terme avec Dieu. C'est la vie par la suite qui va nous influencer, nous souiller, nous polluer à telle enseigne que certains d'entre nous deviennent
comme
des diables. »
Comme dirait Hobbes et Francis Bacon.
Oui. Ça, c'est ce qui va
pourquoi
se produire.
Pourquoi pas le vin? Parce que le vin peut changer, être altéré.
Parce que le vin altère la raison, tout simplement. Mmh. Le vin enivre, donc...
Enivre, et puis c'est quelque chose qui change, qui ne reste pas sur sa nature primordiale.
Vous savez, même le lait tourne.
Mmh.
Mais il ne porte pas préjudice comme le vin. D'accord. C'est-à-dire que le lait, si vous buvez du lait qui a tourné et qu'il vous occasionne quelques désagréments que ce soit, ceci ne touchera que votre personne. Alors que le vin, qu'on appelle en langue arabe Ummul Khaba'it, la mère des vices, le vin va non seulement altérer votre raison, votre jugement, votre vision du monde, mais aussi il va altérer votre relation avec les gens. Donc ça pourrait occasionner un comportement qui est jugé inadéquat ou inapproprié dans la vie de tous les jours. Et il va y avoir cette prière, et après la prière va commencer justement l'ascension.
Kamal Chakat, alors de grands prophètes et messagers sont présents.
Oui.
Des Anbiya Oulil Azm.
Oui, oui.
Mais ce n'est pas eux qui mènent la prière.
Oui.
Quel est le message à tirer de cet épisode?
Là aussi, il y a un point très très important, parce qu'il m'est arrivé de discuter avec des juifs ou des chrétiens dans des rencontres interconfessionnelles.
Qu'est-ce
où on
qu'ils
me
pensent
dit,
justement de cet événement?
Ça les gêne un peu et ils nous disent généralement, vous les musulmans, vous avez tendance à faire étalage d'une certaine supériorité quand vous dites ouais, « Mohammed, c'est le meilleur de tous ». Je leur dis généralement oui, nous l'aimons plus que les autres prophètes. Certains me disent oui, mais là déjà, vous êtes défaillant vis-à-vis de Dieu.
Il y a une précédence.
Comment pouvez-vous avoir cette préférence pour l'un alors que vous devriez aimer tout le monde de la même manière? Je leur dis, de même que vous aimez les chrétiens beaucoup plus que vous n'aimez les musulmans, ou que les juifs s'aiment entre eux beaucoup plus qu'ils ne peuvent aimer les autres obédiences, tout simplement. Mais concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous lisez les différents écrits dits saints chez les juifs, vous allez vous rendre compte qu'une place primordiale est accordée à Moïse alayhi salam, au détriment de tous les autres prophètes, parce que c'était leur prophète. Et au moment où Moïse est venu, il y a eu un tournant très très important dans l'histoire même de l'humanité. C'était la fin du joug de Pharaon, c'était le début d'une nouvelle ère, c'était l'histoire ou bien la promesse de la terre promise qui allait se concrétiser mais qui ne va pas se faire, etc. Et quand on parle de Moïse alayhi salam, on parle d'un messie, de quelqu'un qui a été annoncé depuis longtemps et qui est venu pour concrétiser cette prophétie, lui donner corps, lui donner vie en quelque sorte. Jésus, alayhi salam, c'était la même chose. C'est le Messie. C'était le prophète, en quelque sorte, tant attendu, qui est venu, et à juste titre, même pour nous les musulmans, sa venue est très très importante dans la mesure où elle devait apporter certaines rectifications au culte de Dieu. Jésus a été clair. Il est venu avec l'évangile qui se traduit normalement par « bonne annonce », le « bishara ». Et à partir de là, il reconnaissait en tant que loi ce qui était confirmé dans la Torah. Sauf qu'il devait amender certains points. Pourquoi ? Parce que la Torah était trop rigide. Dieu a condamné les Hébreux à un moment donné de l'histoire en leur imposant des choses qui était très très dur, ou bien en leur interdisant des choses qui leur étaient licites. C'est pour ça que Jésus disait, alayhi salam, wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat, je suis venu avec un enseignement, mais je confirme ce qui m'a devancé de la Torah. Et pour vous rendre licite certaines choses qui vous ont été interdites. Et donc, Mohammed ensuite, quand vient son tour, alayhi salatu wa salam, à l'heure actuelle, nous savons, vous savez, il y a des prêtres, Gab Keldani, que nous avons déjà cités dans nos émissions, qui ont écrit là-dessus, où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une personnalité qui a été annoncée bien avant les deux Bibles, celle des Juifs et celle des chrétiens. Donc, ce dernier messager, il a une importance capitale, tout le monde l'attendait. Pourquoi ? Parce qu'il allait intervenir à un moment qui était très très proche de la fin des temps. Bu'itu ana wasa'ati kahatayn, il va regrouper entre ces deux doigts, enfin regrouper ses deux doigts pour
l'index et le majeur.
Oui, pour montrer que la distance la durée qui sépare ma venue de celle de la fin des temps n'est rien à côté de ce que le cosmos a déjà vécu.
Le lac Tibériade qui s'assèche, qui est presque à sec.
Ça rentre dans l'eschatologie avec le Messie
Dajjal. Et l'eschatologie, justement, il va y être question dans ce voyage nocturne, dans cette ascension surtout.
Oui, mais pas avec l'importance que pourraient lui accorder certaines personnes. Parce que quand vous étudiez Hadith l'Isra ou al-Mi'raj, il y a vraiment des enseignements d'ordre pratique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont beaucoup plus vous plonger dans la pratique religieuse de
quotidien,
tous les jours, mm-hmm, que dans une projection, dans un futur qui pourrait être assez lointain. Donc ça n'a pas vraiment la même... nous ne sommes pas dans le même degré de lecture que celui que nous pourrions avoir concernant les textes qui traitent d'eschatologie.
Alors Kamel Chekat, lors de cette grande rencontre avec cette congrégation où sont présents les meilleurs de l'humanité,
oui,
Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mène la prière. Est-ce qu'il y a un message pour nous ? Est-ce qu'il y a une précédence de la communauté du dernier des prophètes ?
Attention, il y a une précédence, sauf qu'elle ne concerne pas les Arabes. Elle concerne les musulmans.
D'accord.
Les musulmans sont une communauté qui est formée en majeure partie de gens qui ne sont pas du tout d'origine arabe, qui n'ont rien à voir avec l'arabité. Ces gens sont des Arabes. Ils sont des Arabes parce qu'ils parlent l'arabe. Là aussi, il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir. L'arabité ne concerne pas une ethnie. Man takallama al-arabiyyata fahuwa arabi. Cette arabité, attention, nous sommes loin de cette qawmiya arabiya des baptistes d'Irak Shakib et de Syrie du siècle dernier qui a carrément dénaturé l'arabité, l'arabe et j'en passe. Non, non, ça n'a absolument rien à voir. C'est un plus qui peut être très très profitable à tout le monde, mais pas plus. C'est-à-dire que, d'ailleurs ici même en Algérie, vous savez, les plus grands maîtres de la langue arabe ne sont pas des Arabes. Ce sont les Berbères. Et même dans l'histoire, si vous lisez par exemple, vous savez, le premier pas que vous faites en termes d'apprentissage de la langue arabe est un petit support qu'on appelle Metn l'Ajrumiya, l'Ibn Ajrum. Pas l'Ajrumiya, comme le disent les Orientaux. C'est l'Ajrumiya. Ibn Ajrum qui signifie le fils du mendiant ou du démuni en quelque sorte. C'est un Berbère d'Algérie, hein. C'était un Sanhaji, mais il était du côté de Bouira. Donc c'est dans le monde musulman, tout le monde doit impérativement étudier ce petit support pour commencer son cheminement dans l'apprentissage des 12 disciplines de la langue arabe. Ensuite, le premier à avoir écrit un recueil versifié en 1000 vers concernant la syntaxe, les sciences de la langue arabe, c'était un certain Ibn Mu'ti Ziwawi al-Jazairi. Il était de la région de Zouawa. Ibn Malik, rahmatullahi alayhi, a enseigné Alfiyat Ibn Mu'ti pendant 20 ans. Et c'est après cela qu'il a écrit sa fameuse Alfiya en 2700 et quelques vers. C'était le Kafiya, elle s'appelait le Kafiya. Ensuite, il l'a simplifié et c'est devenu Alfiyat Ibn Malik, qu'on étudie à l'heure actuelle. Et actuellement, les plus grands maîtres de la langue arabe, je citerai deux noms, Cheikh Chérifi chez les Mozabites et Cheikh Tahareit Al-Jat pour le centre ou pour le nord algérien. Et croyez-moi, les meilleurs maîtres que nous avons dans le domaine de la langue arabe, ce sont des Berbères. Et qu'ils le font sans complexe. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont appropriés la langue arabe. C'est devenu leur langue, on va dire, pas forcément principale, parce que c'est une langue qu'ils étudient c'est parce que c'est une langue qu'ils utilisent dans le domaine scientifique qui est le leur. Ceci en parlant de la communauté de l'islam et de ce qu'elle pèse dans cette histoire concernant la prière en congrégation qui a été guidée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'enseignement principal, c'est que finalement, cette communauté de prophètes qui a assisté à cette prière en groupe ou en congrégation à Jérusalem, nous donne comme information que la religion de Dieu est une, qu'elle s'est déclinée au fil des temps en fonction des besoins des gens, en fonction de leurs attentes, qu'elle a été on ne peut plus imprégnée de mansuétude et de miséricorde à telle enseigne, que Dieu lui-même a donné du lest, a laissé aux gens une certaine latitude pour pouvoir justement exercer cette religion. Et puis, le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit l'imam dans cette prière indique tout simplement qu'elle est intervenue au moment où c'était lui, le prophète, en exercice de ses fonctions. C'était son apostolat. Et c'était lui qui allait devoir réformer tout ce qui s'est produit avant, toutes les altérations qu'il y a eu suite au message précédent, pas plus ni moins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une autre lecture à cela.
Donc ça ne nous révèle rien du tout sur la communauté musulmane d'aujourd'hui ?
Si, elle indique
sa
quand
place,
même,
son rôle.
Son rôle par rapport aux autres religions, qui est un rôle de transmission de ce message.
Oui, mais nous voyons la communauté musulmane aujourd'hui, Kemal Chekat, le musulman est faible et décrié par tous.
Oui.
Les musulmans n'apportent aucune valeur ajoutée aujourd'hui. Et il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'à la fin des temps, les musulmans seraient...
Ruta unka ruta issaïd.
Exactement.
Là, il y a deux paramètres
Alors,
à prendre en
comment
considération.
Comment tirer l'épingle justement de tous ces éléments?
Il y a un très beau livre que tout le monde devrait lire. Il a été écrit par... Abu al-Hassan al-Nadwi, de Nadwat al-Ulama, qui est à Lucknow en Inde, c'est les plus grands spécialistes dans le domaine de la tradition prophétique. C'est là-bas que vous avez les plus grandes, ou bien les chaînes de transmission les plus élevées. A'la al-Asanid. Il a écrit un livre qui s'intitule « Mada khasir al-alamu min inhitat al-muslimin »« Qu'a perdu le monde après le déclin des musulmans ?» Certains pourraient me dire « Oh, pas grand-chose. » Oh, que non. Le monde a beaucoup perdu, sauf que l'histoire d'aujourd'hui est écrite par les vainqueurs, par les puissants, et ces puissants écrivent ce qu'ils
Comme
veulent.
Ça a toujours été le
oui,
cas
ça a toujours
lors
été
de la période romaine.
Absolument.
Qui a écrit notre histoire.
Donc, ceux qui vous disent que les musulmans n'apportent rien de bon au monde d'aujourd'hui sont dans l'erreur la plus totale, parce que les musulmans sont bien présents dans le monde d'aujourd'hui. Mm-hmm. Ils font beaucoup de bonnes choses. Nous avons énormément de savants qui contribuent au bien-être du monde entier. Une fois, une personne m'a dit « Oui, mais bon, comment peux-tu dire cela alors que si je fais une petite comparaison, j'ai peut-être deux prix Nobel musulmans alors que j'en ai plus d'une trentaine ou d'une quarantaine
oui,
qui sont d'origine.
Pas.
Le problème est que dans les universités de premier ordre, à l'heure actuelle et dans le monde, et surtout en France, vous avez les juifs sont affiliés, ou même les savants juifs sont affiliés à des lobbies qui ont du répondant, qui ont de l'argent. Et ces mêmes lobbies s'organisent de sorte à ce que, quand il y a une thèse de recherche qui est super intéressante, on vous place à la tête de l'équipe de recherche un juif qui récoltera tous les...
Ça n'a pas changé de l'époque d'Alphonse X, Kemal Chekat.
Non, pas du tout.
Les juifs ont toujours été protégés par les rois, étaient très proches donc de la cour.
Oui, c'est à peu près
on
ça.
On se rappelle du docteur Don Abraham qui a justement aidé dans la traduction du livre de l'échelle de Mohammed.
Oui, dans certaines universités en France... Il n'y a qu'eux qui ont le droit de pénétrer les laboratoires de recherche. Et toute recherche ne peut se faire qu'en passant sous cette domination.
Donc c'est vrai, Ruta Unka Ruta Issail.
Pour ce qui est de Ruta Unka Ruta Issail, ça c'est une autre paire de
manches. Qu'est-ce qu'il dit ? Takalabu alaykum al-umam.
Il viendra un jour où les nations, on va dire, s'entretueront en ce qui vous concerne, comme s'entretueraient des loups affamés autour d'une dépouille ou d'une charogne, ou bien des affamés autour d'un plat, d'un repas, etc. Et ils l'ont dit, pourquoi? Parce que nous serions en nombre réduit. Il a dit, non, vous serez très nombreux, sauf que vous êtes comme ces déchets que transporte l'écume de la mer, vous ne pesez rien. Mais là, attention, quand on dit que les musulmans ne donnent aucune plus-value, ça c'est faux. Ils sont là, ils donnent beaucoup de plus-value à tout ce monde. Et même que ces musulmans ont contribué au bien-être du monde, même pendant les deux premières guerres mondiales, qui étaient des guerres européennes en fait. Alors quand les Européens s'entretuent, ça devient une guerre mondiale. Quand ils jouent du violon, ça devient de la musique universelle. C'est ainsi que va le monde. Et donc, quand vous étudiez ce hadith, finalement ce hadith, il vous donne une réalité qui est celle des musulmans d'aujourd'hui, des musulmans qui ont délaissé un peu leur religion. Et on entend des voix dans certaines chaînes qui vous disent « Oui, non, mais attendez, on ne va pas revenir à l'âge de pierre avec les préceptes de l'islam. » Mais, pauvres ignorants, le problème, c'est que quand l'islam dominait, nous étions les premiers. Mm-hmm. Quand l'islam a été déchu, il y a un très beau documentaire que vous trouverez sur le net qui s'intitule « Quand le monde parlait arabe ». Le monde de la science et du savoir, attention.
On a un problème avec la langue, Kamal Chekat, avec la religion, avec les gens.
Vous avez des lobbies intellectuels qui ont un problème avec l'islam.
J'aime bien un lobby intellectuel.
Oui, c'est des lobbies. Parce que là, attention, là, nous sommes plein pied. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux livre de Guggenheim, Aristote au Mont Saint-Michel. Mm-hmm. Par la suite, il y a 15 philosophes au moins, c'est des philosophes confirmés, hein, qui lui ont répondu dans un livre qui s'intitule « Les Arabes, les Grecs et nous », et où on a parlé pour la première fois d'islamophobie savante. Donc nous avons face à nous des cartels, des lobbies qui veulent imposer une vision du monde qui est la leur. Ces gens-là ont un problème avec l'islam. Là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont un discours qui ne se tient pas dans la mesure où ils avancent des choses qui n'ont aucun fondement, ni philosophique, ni intellectuel, ni historique. Et c'est ça, moi, qui me dérange dans ce type de débat. C'est que les gens sont là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, et quand vous dites quelque chose, il faut le prouver, l'argumenter, le démontrer. Et quand vous le démontrez, on vous dit « Oui, mais attendez, on n'a pas... » Franchement, là, ce sont des Arabes comme vous qui en parlez. Mais attendez, ce sont des données historiques. Et l'histoire, quand on étudie son cheminement, vous savez, quand vous apprenez quelque chose à partir d'un livre d'histoire, l'information, elle peut être vérifiée. On a des moyens d'investigation. Lisez un peu ce que disait Toynbee. Lisez un peu où est Will Durant dans l'histoire de la civilisation et vous vous rendrez compte qu'il y a des méthodes d'investigation qui vous permettent de décréter si telle chose est jouit d'une certaine véracité ou pas.
Ces auteurs que vous venez de citer, Kamal Chekat, sont-ils disponibles ici dans les librairies algériennes?
Même s'ils ne sont pas
disponibles. Je n'ai jamais vu Toynbee dans aucune librairie en Algérie.
Mais attendez, il est téléchargeable en français et en anglais. Je suis désolé. Vous pouvez lire du Toynbee quand vous le voulez. Will Durant,
c'est... Ils ne sont pas disponibles, ces ouvrages,
non, mais attendez. L'âge de la foi, par exemple, je l'ai payé 2 euros. C'est un livre usagé.
2 euros, donc pas ici, Kamal Chekat.
Pas ici, mais vous pouvez le trouver. Et puis, l'âge de la foi, il est téléchargeable en anglais et il est téléchargeable aussi en français. Vous le trouverez sur le net. Allez à la BNF ou quelque chose, vous allez le retrouver. En tout cas, l'encyclopédie en elle-même, celle de Will Durant, je l'ai téléchargée en anglais, je l'ai lue en anglais avant de pouvoir l'acheter et de la lire en français. Donc, elle existe, ne vous en faites pas. Mais même si elle n'existe pas, vous avez des livres, une multitude de livres condensés qui ont été écrits par des orientalistes, qui ont été écrits par des historiens, même d'origine arabe, Georgi Zeidan, etc., Ahmed Amin, Qissat al-Hadara, etc., cette fameuse orientaliste qui a toujours en vie, Karen Armstrong, qui a écrit une multitude de livres, elle parle d'un certain nombre de grands noms de la littérature très très abondante qui s'est toujours attaquée à l'islam et aux musulmans, qui vous dit... Par exemple, je crois que c'était von Bollstedt qui disait finalement tout ce qu'on a pu écrire sur Mohammed. Moi, il m'arrivait de d'écrire des choses que j'entendais comme ça dans la rue. Et il les consignait par écrit, et ensuite ça devenait, oui, un tel a dit. Comme si ce un tel, c'était la référence suprême en la matière. Alors que un tel, finalement, c'était quelqu'un, c'était un colporteur, pas plus ni moins, qui entendait des choses, qui les écrivait et qui devenaient ensuite des vérités absolues. Donc, ruta unka ruta isseil, c'est nous, les musulmans, qui ne sommes pas à la hauteur de ce que nous avons comme trésor. Vous savez, Ibn Smaya, rahmatullahi alayhi, une fois, il y a un Français qui est venu lui dire, pendant l'époque coloniale, Ibn Smaya était un grand savant d'Alger. Il lui a dit, je voudrais juste que vous m'expliquiez, il y a un verset dans votre Coran qui dit, « وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » Dieu ne... Comme si je devais traduire, parce que ensuite le mot « sabil » a une interprétation qui est un peu spéciale. Dieu ne donnera jamais la primauté ou la puissance à un incroyant ou à un mécréant sur un croyant. Alors il lui a dit, « Et pourtant, nous les mécréants, nous vous dominons. » Ben Smaïl lui a dit, « Écoutez, que vous soyez mécréants, ça on est d'accord là-dessus. Vous êtes des mécréants. Que vous nous dominiez, là aussi nous sommes d'accord. C'est un état de fait que nul ne peut nier. Maintenant que nous soyons de véritables croyants, là est la question. Là, il y a matière à creuser. » Ensuite, le verset, il lui a expliqué que le mot sabil ici ne voulait pas dire la puissance, mais l'argument. C'est-à-dire que quand bien même vous seriez dominant, et si on devait se livrer à un débat intellectuel, vous n'auriez pas d'argument, parce que vous êtes des gens qui agissaient selon l'iniquité la plus totale. Vous n'êtes pas dans ce que l'on pourrait qualifier de bon droit. Donc, « entum ruta unka ruta isseil », c'est une conséquence logique. À chaque fois qu'il y a eu des débats entre des connaisseurs de l'islam et des représentants des autres religions, jamais, au grand jamais, le débat n'a penché pour les non-musulmans. Le premier débat historique a eu lieu à Accra en 1845 entre Rahmatullah al-Hindi, Rahmatullah alayh, et le fameux évangéliste Karl Gottlieb Pfander. Karl Gottlieb Pfander, à un moment donné, vous savez ce qu'il a fait ? Il manquait tellement d'arguments, c'était la faillite la plus totale. Il s'est levé de table et a quitté la controverse. Il a couru, il est sorti en courant. Quand il est arrivé chez lui, il s'est mis à écrire un livre qui s'intitule « The Balance of Truth »,« Mizan al-Haq », »,« La balance de la vérité », où il revient à la manière des orientalistes sur certains versets qu'il va habiller d'une certaine analyse, d'une certaine exégèse, pour essayer de se donner raison sur certains points de la religion ou sur certains points concernant l'islam. Il a été beaucoup aidé en cette période-là par le grand évangéliste aussi, un grand orientaliste aussi, qui est William Muir, d'Angleterre. Ensuite, il y a eu d'autres débats. Ahmed Didat, rahmatullahi alayhi, a été beaucoup influencé par rahmatullahi al-Hindi.
Et aujourd'hui, Dr Zakir Naik.
Zakir Naik, voilà. Qui a été influencé à son tour, ouais, par Ahmed Didat.
Bien sûr.
Le problème avec Zakir Naik, c'est qu'on l'a même menacé de mort, ouais, attention. Surtout les hindous.
Merveilleux.
Oui, donc c'est ça, quand il y a des débats, quand les
et
débats
puis chez
sont...
nous, nous avons Kamal Chakat.
Vous savez, je suis loin de
faire partie
de cette rencontre.
Merci beaucoup à vous, Kamal Chakat, pour tous ces détails. Nous y reviendrons, en tout cas la semaine prochaine, puisque
finalement, on a parlé de tout sauf du...
Alors, Kamal Chakat, nous y reviendrons la semaine prochaine. Inchallah. J'espère qu'on pourra terminer cet épisode.
Nous lirons le hadith et nous essaierons de prendre autant
de trouver les subtilités
et les enseignements.
Bien, merci à vous d'avoir été des nôtres en début de semaine à tous. Au revoir.